tatouer si tu veux. Bien tatouer si tu veux. Joli causé. Ou la tuer si tu veux. Bien tatouer si tu veux. Joli français. La maman n'a pas besoin rouler. À moi donne mon petit magouillé. Mi qu'un tiens mon maloya. Mon cigar cabaret. La maman n'a pas besoin rouler. À moi sans mon petit magouillé. Mi qu'un tiens mon maloya. Mon alcon cabaret.
Au Club de Luxe avec DJ Facemaker. Tous les vendredis à 20h10 TU sur RFI.
RFI, 7h à Paris, 6h en temps universel.
Julien Coquel-Rohem.
Et Nemo en piste pour le journal. Bonjour Nemo.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
L'issue sera-t-elle diplomatique ou militaire? Iraniens et Américains se retrouvent aujourd'hui à Genève.
Pour un troisième round de discussion sur le dossier du nucléaire et alors que la tension ne cesse de monter entre Téhéran et Washington. Téhéran qui, selon un responsable, se dit toutefois prêt à faire des concessions. L'Iran qui pourrait libérer les Français Cécile Kohler et Jacques Paris en cas de retour dans le pays de Mahdi Essfandiari, dont le jugement dans le procès pour apologie du terrorisme en France doit être rendue aujourd'hui. Nous sommes à Pékin ensuite, où eux semblent en revanche un peu plus alignés. D'un côté Friedrich Merz, de l'autre Xi Jinping. Le chancelier allemand et le président chinois ont affiché une envie commune de coopérer. Dans ce journal également, un procès télévisé très suivi au Burkina Faso. Rachida Dati, désormais ex-ministre de la Culture en France, qui se lance pleinement dans la bataille pour la mairie de Paris. Et puis la 6e édition de l'exercice spatial annuel français qui prend fin demain vendredi.
Genève, une nouvelle fois centre névralgique de la diplomatie internationale.
Oui, c'est en Suisse que se tient aujourd'hui la troisième salve de négociations entre les États-Unis et l'Iran, avec un fort accent sur le dossier du nucléaire iranien, alors que Washington a largement renforcé sa présence militaire au Moyen-Orient. Discussion de la dernière chance, dit-on, sous médiation omanaise. À quelques heures de leur ouverture, Téhéran dit avoir préparé des propositions, des concessions à l'attention de Washington. Explication à Blajounaïdi.
Sur le papier, comme à en croire les dernières déclarations, les positions de chaque camp paraissent inconciliables. Les États-Unis exigent zéro enrichissement d'uranium par l'Iran, alors que le droit à l'enrichissement pacifique demeure une ligne rouge pour Téhéran. Mais selon un responsable de la République islamique interrogé par Reuters, le régime est prêt à des concessions aux émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner. Elle prévoit l'envoi de la moitié du stock le plus enrichi à l'étranger, comme l'a encore réclamé Steve Witkoff la semaine dernière, et la dilution du reste du stock sous supervision internationale en gage de transparence. Un responsable iranien évoque même à l'agence Reuters des propositions d'ouverture pour les entreprises américaines dans le domaine du pétrole et du gaz en Iran. En échange, Téhéran demanderait à Washington de reconnaître le droit à l'enrichissement pacifique et la levée des sanctions économiques. En revanche, Téhéran refuse obstinément de discuter de son programme balistique voué aux gémonies par Donald Trump cette semaine encore. Le président américain agite plus que jamais la menace d'une intervention militaire en cas d'échec des pourparlers.
Blajounaïdi, dans un quart d'heure, on se penche encore un peu plus sur ces discussions en Suisse avec notre invité Robert Mallet, ancien conseiller pour le Moyen-Orient des présidents américains Clinton, Obama et Biden. Il sera l'invité de Clotilde Dumay.
Pendant ce temps à Paris, le tribunal correctionnel doit rendre son jugement dans le procès pour apologie du terrorisme de Mahdi Essfandiari.
Un verdict forcément suivi de près puisque cette iranienne pourrait servir de monnaie d'échange avec Téhéran contre les Français Cécile Kohler et Jacques Paris, toujours bloqués en Iran. Plus de détails avec Oriane Verdier.
Mahdi Essfandiari est accusé par la justice française d'avoir fait l'apologie de l'attaque du 7 octobre 2023 menée par le Hamas en Israël. Elle est notamment jugée pour apologie de terrorisme et provocation à des actes de terrorisme. En janvier dernier, le parquet a requis 4 ans de prison, dont 3 avec sursis, contre la traductrice iranienne et une interdiction définitive du territoire français. Mais suite à ces 8 mois de détention provisoire, la procureure a estimé inutile de la réincarcérer. Parallèlement, Cécile Kohler et Jacques Paris, condamnés en Iran pour espionnage pour le compte d'Israël et détenus depuis 2022, ont été libérés de la prison d'Evin en novembre dernier. Depuis, ils sont bloqués à l'ambassade de France, à Téhéran. Officiellement, la France n'établit aucun parallèle entre le sort des deux Français et celui de cette Iranienne. Mais l'Iran, de son côté, parle très clairement d'un échange. C'est un arrangement entre deux États, a affirmé en janvier l'ambassadeur d'Iran en France, discréditant ouvertement le rôle de la justice française. Une fois le verdict rendu, donc aujourd'hui, Mahdi Essfandiari Hassan Diary pourrait ainsi être rapidement remise aux autorités iraniennes. Son arrivée sur le sol iranien déclencherait, selon Téhéran, la libération des deux Français.
Oriane Verdier, je vous le disais, Genève sera ce jeudi l'attention de nombreux observateurs internationaux. La ville suisse accueille dans le même temps qu'une délégation iranienne, une délégation ukrainienne avec à sa tête le négociateur Roustem Oumerov. Il doit s'entretenir avec les envoyés de Donald Trump, son gendre Jared Kushner ainsi que Steve Witkoff, alors que se profile dès le début du mois de mars de nouvelles négociations avec la Russie pour trouver une issue à la guerre. Cette nuit, des explosions ont été entendues à Kiev après une alerte aérienne. Des frappes ont également été enregistrées dans d'autres villes du pays comme Kharkiv. Une tentative d'infiltration d'un groupe armé à des fins terroristes depuis les États-Unis. C'est ce qu'ont dénoncé cette nuit les autorités cubaines après que 4 occupants d'un bateau immatriculé en Floride ont été tués lors d'un échange de tirs avec les gardes-côtes cubains dans les eaux territoriales de l'île. Un peu plus tôt, le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, affirmait que Cuba devait, je le cite, « changer radicalement », ce qui représenterait, selon lui, sa seule chance d'améliorer la qualité de vie des habitants.
Maigre victoire pour Jimmy Lai à Hong Kong.
Quelques jours à peine après avoir été condamné à 20 ans de prison pour sédition en vertu d'une loi sur la sécurité nationale, l'ancien magnat des médias, pro-démocratie, a remporté son appel contre une condamnation pour fraude. Décision rendue par la Haute Cour de Hong Kong à laquelle n'a pas assisté le concerné, resté en détention.
RFI 14h06 à Pékin où Friedrich Merz a rencontré hier Xi Jinping.
Le chancelier allemand qui poursuit sa visite en Chine et qui, aux côtés du président chinois, a affiché un message clair. Coopérer malgré les désaccords. Pékin et Berlin qui souhaitent, malgré les tensions internationales croissantes, maintenir le dialogue. Cléa Broders, vous êtes à Pékin, vous avez suivi cette rencontre. Que révèle-t-elle vraiment ?
Alors, le contexte international est particulièrement incertain. L'Allemagne et la Chine, deux grandes puissances industrielles dépendantes du commerce mondial, font face aux mêmes turbulences, tensions géopolitiques, ralentissement économique et pression commerciale croissante des États-Unis. Et dans ce climat, eh bien, Pékin cherche à consolider ses relations avec les grandes économies européennes. Écoutez Xi Jinping.
Plus le monde devient turbulent, plus la Chine et l'Allemagne doivent renforcer leur communication stratégique et leur confiance mutuelle afin de soutenir la coopération avec l'Europe et la stabilité mondiale.
Mais derrière cette vision stratégique, les enjeux économiques dominent largement la relation bilatérale. La Chine est le premier partenaire commercial de l'Allemagne, mais tandis que les importations allemandes en provenance de Chine augmentent fortement, les exportations reculent, creusant un déséquilibre croissant. Le chancelier allemand insiste sur la nécessité d'un dialogue franc et d'une relation plus équitable.
Le déficit entre l'Allemagne et la Chine est actuellement au-dessus des 80 milliards d'euros. Depuis 2020, ça a été multiplié par 4. Ce n'est pas une dynamique saine. Alors on s'y attelle pour trouver des moyens de réduire ce déficit commercial que nous subissons.
Alors Berlin met en avant des avancées concrètes. Pékin promet d'acheter davantage de produits allemands à haute valeur ajoutée et jusqu'à 120 avions Airbus pourraient être commandés. Des résultats encore limités mais qui illustrent une relation devenue indispensable.
Merci Cléa Broders, envoyée spéciale permanente de RFI à Pékin.
Un procès retransmis à la télévision et qui passionne les foules au Burkina Faso.
Procès des responsables présumés du détournement d'environ 3 milliards de francs CFA au ministère de l'Action humanitaire au début des années 2020. Plusieurs agents avaient déjà été condamnés l'année dernière. L'affaire avait débouché sur la mise en cause de plusieurs hauts responsables, dont l'ancien ministre en charge et l'ancien directeur de la gestion des finances. Et depuis le début du mois de février, ce sont 8 co-accusés qui comparaissent devant le tribunal de grande instance de Ouagadougou. Les détails avec Esdras Dikoumana.
Le débat du jour a longuement porté sur une commande de pagne pour la commémoration de la Journée internationale des droits de la femme en 2024. Le principal accusé de cette commande, Camille Yakeye, à l'époque directeur de la gestion des finances au ministère en charge de l'action humanitaire, a tenté de justifier la procédure d'attribution de son marché sans convaincre le ministère public. Suivez leurs échanges retransmis à la télévision nationale.
J'ai contracté, on a regardé un peu les procédures avec les prestataires initialement inscrits sur la base de données. On n'a pas trouvé quelqu'un. Et il y a une réglementation qui autorise de contracter en entente directe avec les associations.
Moi, ce qui me gêne un peu, c'est le fait que non seulement vous étiez à la manœuvre donc, dans la conclusion du contrat, mais c'est vous, en fait, qui vous êtes chargé de contacter d'autres personnes pour livrer les pagnes que Yaphe Godé n'arrivait pas à livrer.
Appelé à la barre, le chef du service de la commande publique de l'époque, Amidou Gnoumo, n'a pas hésité à pointer des anomalies au niveau de l'attribution de son marché de pagnes. Les 8 personnalités inculpées dans ce second volet de cette affaire de détournement de fonds comparaissent libres.
Esdras Dikoumana, quelques dates à noter. Du 13 au 23 avril, le pape Léon XIV effectuera une tournée sur le continent africain. 4 pays concernés en tout, l'Algérie, le Cameroun, l'Angola et la Guinée équatoriale. Vous lisez plus de détails sur cette visite du souverain pontife sur notre site internet rfi.fr.
Les municipales approchent à grands pas en France et Rachida Dati se lance pleinement dans la bataille pour Paris.
Elle a elle-même annoncé hier soir avoir remis sa démission au président français Emmanuel Macron à moins de 3 semaines de l'échéance. Valérie Gasse, elle va désormais entièrement se consacrer à sa campagne pour la mairie de la capitale.
Rachida Dati a fait du Rachida Dati. Là où les annonces des entrées et sorties du gouvernement viennent généralement de l'Élysée, la désormais ex-ministre de la Culture a préféré s'en charger elle-même au micro de BFM TV.
J'ai été très heureuse d'être ministre de la Culture. Je crois que c'est une des plus belles missions que j'ai pu accomplir à ce jour. Mais le combat de ma vie, c'est Paris. C'est pour ça que j'ai remis ce matin ma démission au président de la République.
Une communication maîtrisée pour celle qui avait pris l'engagement de quitter ses fonctions ministérielles, mais semblait traîner des pieds ces derniers jours. À moins de 3 semaines du premier tour des municipales et alors que la nomination d'un nouveau directeur du Louvre a inscrit le point final de sa mission, le moment était venu de retirer sa casquette de ministre. Rachida Dati va donc être à partir de maintenant candidate à Paris à plein temps et elle en a profité pour rappeler les enjeux.
Si vous voulez l'alternance à Paris, votez pour moi dès le premier tour. Il faut que nous ayons cette dynamique de premier tour, cette dynamique de l'alternance pour qu'on l'emporte au deuxième tour.
Ce combat, elle est loin de l'avoir gagné. Le socialiste Emmanuel Grégoire la devance dans les sondages. Pierre-Yves Bournazel au centre et Sarah Knafaud à droite la menace. Rachida Dati a du pain sur la planche.
Valérie Gasse, chef du service politique de RFI.
Et la France où se referme demain, vendredi, la 6e édition de l'exercice spatial annuel.
Avec une particularité à noter en 2026, le commandement de l'espace de l'armée de l'air française a intégré cet exercice aux manœuvres de haute intensité Orion 26 qui associe tous les milieux et champs de conflictualité. En tout, ce sont 200 personnes, civiles comme militaires, qui prennent part à cet exercice Spartex. Franck Alexandre.
Pleinement opérationnel depuis novembre dernier, le commandement de l'espace joue désormais sa partition. Facteur de supériorité très disputé, cet avantage, il faut le défendre, indique Olivier Fleury, directeur de l'exercice Spartex, car l'espace est aussi un champ de bataille.
L'appui spatial aux opérations permet de faire réellement la différence sur le terrain. C'est indispensable dans les conflits potentiellement à venir. Et puisque c'est un facteur de supériorité, les potentiels adversaires viseront nécessairement l'espace pour restreindre cet avantage différenciant. L'espace est en particulier un facteur d'accélération de la chaîne de décision. Et donc pour venir déborder un adversaire, c'est également l'espace qui va fournir l'ensemble des informations, leurs renseignements, pour mieux connaître les intentions et les moyens d'un adversaire pour pouvoir le contrer.
4000 objets spatiaux sont simulés au cours de l'exercice Spartex et vont subir plusieurs types de menaces, éblouissements, brouillages, approches dangereuses. Les 200 personnels de la base aérienne 101 à Toulouse vont tester leur aptitude à protéger les traits stratégiques satellites militaires français.
Un sujet signé Franck Alexandre.
Et le journal de Nemo en Peace. Merci Nemo, à tout à l'heure. Ce matin, ça continue avec le journal des sports et avec vous, Pauline Guillou, du football. Retour sur la soirée de Ligue des Champions hier soir. Ça y est, on connaît tous les qualifiés pour les 8e de finale.
Et oui, encore une belle soirée de Ligue des Champions hier soir avec le PSG qui s'en sort, mais dans la douleur, face à Monaco dans cette affiche 100% Ligue 1, score final de partout. Et Monaco qui a quasiment refait le même coup à Paris qu'au match aller. Hein. Ouverture du score, grosse pression mise sur les Parisiens, un peu déphasés et presque méconnaissables. Et comme à l'aller, un carton rouge pour Monaco. Le match bascule. Match nul, mais c'est bien le PSG qui continue. Écoutez le soulagement de l'entraîneur du PSG, justement, Luis Enrique.
C'était un match piège et ça a été compliqué dans les premières minutes. Hein. Il y a des moments que tu perds la précision et c'est difficile à récupérer ton niveau. Mais je pense qu'il faut être erré de ce qu'on a fait et de surmonter ces moments compliqués dans les premiers mi-temps.
Et Paris connaîtra donc son adversaire en huitième de finale demain lors du tirage de la suite de cette Ligue des Champions. Du lourd au programme pour les Parisiens qui affronteront soit Chelsea, soit le FC Barcelone.
Un mot des autres rencontres de la soirée.
Oui, le scénario un peu fou du côté de l'Atalanta Bergame, qualifié après sa victoire face à Dortmund. L'Atalanta qui devait absolument marquer hier soir après sa défaite 2-0 à l'aller. Un match fou hein, pour le club italien qui arrache sa victoire sur pénalty à la 98e minute. Score final 4-1, dernier représentant italien de cette, dans cette Ligue des Champions, pardon, j'en perds ma voix, après l'élimination de la Juventus face à Galatasaray.
Consolez-vous, Pauline, ça passe en revanche pour Madrid.
Et oui, le Real rejoint les huitièmes de finale en dominant le Benfica 2-1 au Santiago Bernabéu. Le club espagnol a ainsi confirmé sa victoire du match aller au Portugal 1-0. Avec des buts signés Aurélien Tchouaméni et Vinicius Junior en fin de rencontre. Un but symbolique pour le Brésilien après l'affaire de racisme qu'il avait touché il y a 8 jours à Lisbonne. Écoutez le sentiment d'après-match du milieu de terrain de l'équipe de France Aurélien Tchouaméni. Il était au micro d'Éric Mamrut.
Il est évident que nous n'avons pas fait notre meilleur match de la saison. Bien sûr qu'il y a beaucoup de choses à améliorer, mais au final, nous avons gagné ce match. C'est le plus important et nous devons continuer à travailler pour faire les choses mieux. Mais nous avons énormément confiance en notre équipe et selon moi, nous allons faire de bonnes choses cette saison. Concernant Vinicius, il y a des choses plus importantes que ce match et le football. Vinicius est resté confiant tout en étant très concentré sur ce qu'il avait à faire et je crois que ce soir, c'est une victoire pour tous les gens qui sont contre le racisme.
Et de leur côté, les Madrilènes ont rendez-vous soit avec Manchester City ou le Sporting Portugal en 8e.
Le journal des sports, Pauline Guillou, merci beaucoup. Et bonjour Agnès Kakoumor.
Bonjour.
Dans Aujourd'hui l'économie, ce matin, on s'intéresse à cet ultimatum aux États-Unis du département de la défense à Anthropic. La start-up d'intelligence artificielle sommée de lever toutes les restrictions à l'utilisation de son IA par le Pentagone. Faute de quoi, elle sera inscrite sur la liste noire du gouvernement. Comment en est-on arrivé là?
Les tensions datent de septembre dernier, quand Pete Hackett, le secrétaire américain à la défense, a demandé aux fournisseurs de modèles d'IA de pouvoir les utiliser sans réserve à des fins militaires. Tous les groupes, parmi lesquels OpenAI et Google, donnent leur accord, y compris Anthropic. La start-up oppose toutefois son veto à ce que sa technologie ne serve à l'espionnage massif des citoyens américains et à des opérations militaires mortelles sans intervention humaine. Depuis, les relations entre le Pentagone et l'entreprise n'ont fait que s'envenimer.
Et quelles seraient les conséquences d'une inscription sur cette liste noire?
Eh bien, qu'Anthropic, qui y figurerait aux côtés de l'équipementier chinois Huawei ou du spécialiste russe des logiciels antivirus Kaspersky. Des sociétés qui constituent une menace pour la sécurité nationale des États-Unis et qui sont, pour la plupart d'entre elles, étrangères. Toute entreprise qui voudrait faire affaire avec l'armée américaine devrait alors couper les ponts avec Anthropic. La jeune start-up y risque gros, à commencer par un contrat de 200 millions de dollars signé avec le département américain de la défense.
Au moment où le Pentagone hausse le ton, Anthropic annonce qu'il assouplit ses règles de sécurité. Comment comprendre ce revirement?
La start-up californienne l'affirme. Cette mesure est nécessaire pour suivre le rythme de l'évolution de l'IA. Cette décision marque en effet un tournant par rapport à la position précédente du patron d'Anthropic, Dario Amodei, revendiquant une approche éthique de l'intelligence artificielle. Celui-ci privilégie désormais la sécurité, une vision qui le distinguait de ses concurrents, notamment OpenAI.
Alors Agnieszka, est-ce qu'il faut voir là un gage d'apaisement?
Peut-être, car jusque-là, les relations avec l'armée étaient excellentes. Son agent conversationnel, Claude, est à ce jour le seul à être utilisé dans les opérations classifiées. Selon le quotidien américain The Wall Street Journal, le Pentagone l'aurait utilisé lors de l'exfiltration de Maduro du Venezuela, mais l'intransigeance de son patron a valu à la pépite californienne de se retrouver dans le collimateur de l'administration Trump, il y a évidemment un fond politique. Dario Amodei n'a jamais caché ses sympathies démocrates au point de voir sa société être qualifiée de l'IA woke. Il y a 3 ans, le PDG d'Anthropique se disait encore prêt à retarder le développement de l'IA si elle était potentiellement dangereuse. La start-up privilégie désormais la compétitivité et la croissance économique. C'est pourtant cette approche qui a poussé Dario Amodei à certains de ses collègues à quitter OpenAI et à fonder Anthropique en 2021. Mais depuis, le contexte politique a changé et l'entreprise en prend acte. L'enjeu est de taille. Le créateur de Claude veut introduire Anthropique en bourse cette année. L'entreprise est actuellement valorisée à hauteur de 380 milliards de dollars.
Agnès Kakoumor pour aujourd'hui l'économie. Merci. 7h19 à Paris, Clotilde Dumay, votre grand invité international de ce matin est américain, ancien conseiller des présidents Bill Clinton, Barack Obama et Joe Biden pour le Moyen-Orient, aujourd'hui enseignant en relations internationales à l'université de Yale.
Bonjour Robert Mallet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous depuis les États-Unis sur RFI. Américains et Iraniens se retrouvent donc une nouvelle fois à Genève, en Suisse. 3e rencontre en un petit peu moins d'un mois, donc pour tenter de faire avancer les négociations sur le nucléaire iranien. Téhéran estime qu'il y a de bonnes chances de parvenir à un accord. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ?
Écoutez, je pense que nous sommes dans une situation qui est marquée à la fois par une certaine illégalité, par une opacité et par un danger. Je dis illégalité parce que la menace d'une guerre contre l'Iran n'a pas de fondement légal ni dans le droit américain ni dans le droit international. Mais passons, parce que c'est certainement pas ça qui préoccupe le président Trump. On est dans l'imprévisible parce que franchement, tout dépend aujourd'hui de ce qui se passe dans la tête, dans les instincts, dans les envies, les impulsions du président Trump, parce qu'on connaît plus ou moins la position iranienne, mais on ne sait pas ce que veut le président Trump. Il semble changer d'avis quasiment de façon quotidienne. Un jour, son objectif, c'est simplement de s'assurer que l'Iran ne puisse pas obtenir une bombe atomique. Puis, son secrétaire d'État parle des missiles. Une autre fois, il parle des morts d'une massacre qui a été commis par les autorités iraniennes contre ses propres citoyens. Donc, on ne sait pas très bien ce qu'il cherche. Et puis, je dis que c'est dangereux parce qu'évidemment, une guerre, ça peut très bien commencer et puis ça peut très mal se terminer. Donc, c'est vrai que le son de cloche qu'on entend de la part de Téhéran est plutôt optimiste. Je ne dirais pas que c'est le cas de ce que j'entends de Washington.
Vous qui avez conseillé plusieurs présidents américains sur ce dossier, que diriez-vous justement à Donald Trump aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut aller en guerre ou non ? Que doit-il faire ?
Non, il faut certainement pas. Enfin, il n'y a pas de justification. Aujourd'hui, encore une fois, il n'y a pas de fondement légal. Il n'y a pas non plus de justification. L'Iran ne présente pas un danger imminent, immédiat pour les États-Unis. Aucun expert ne pourrait prétendre le contraire. Maintenant, ce que je crois, c'est qu'à entendre, à écouter ce que disent les responsables iraniens, il semblerait que si l'objectif, c'est réellement de se concentrer sur le programme nucléaire iranien, eh bien, il pourrait y avoir un accord à portée de main qui serait, ben, je dois le dire, supérieur à celui qui a été négocié par le président Obama au moment où je le conseillais. Et il serait supérieur, ne serait-ce que parce que le programme nucléaire iranien aujourd'hui a été endommagé de façon extrêmement sévère par les frappes israéliennes et américaines. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas d'enrichissement iranien. Et il semblerait que les autorités iraniennes soient prêtes à accepter au moins une suspension prolongée de tout enrichissement, ce qui déjà est un plus par rapport à ce qui avait été obtenu dans l'accord nucléaire de 2015. Donc je pense que si ce que veut vraiment l'administration américaine, c'est certaines assurances contre la possible acquisition, développement par le gouvernement iranien, par le régime iranien d'une bombe atomique, je pense qu'il y a une possibilité d'accord. Mais on ne sait pas.
Une possibilité d'accord rapidement, parce que vous, justement, vous avez négocié l'ancien accord sur le nucléaire iranien en 2015. Vous avez vu que ça avait pris beaucoup de temps, plusieurs années. Là, vous pensez que ça peut se résoudre en quelques semaines ?
Écoutez, les détails, je ne sais pas. Mais en tout cas, les grandes lignes, les grands principes de l'accord, je pense que oui. Mais encore une fois, je ne sais pas si c'est ce que recherche le président Trump. Donc, à l'heure où je vous parle, je ne peux parier sur aucune issue plutôt qu'une autre. Aujourd'hui, je suis plutôt pessimiste, mais on ne sait jamais. Un président imprévisible peut nous surprendre et il peut décider du jour au lendemain qu'un accord vaut mieux qu'une guerre.
Option plutôt pessimiste, dites-vous, Robert Mallet, parce qu'effectivement, on le voit, hein, les Américains sont en train de déployer actuellement d'importants moyens militaires, des forces aériennes et navales essentiellement, avec deux porte-avions hein, qui sont désormais dans la région. On a du mal, effectivement, à imaginer que tout cela ne serait qu'une dissuasion et qu'il n'y aurait à un moment donné aucune opération militaire, sans connaître forcément l'envergure. Mais...
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. C'est non seulement une armada qui est très importante, c'est l'armada la plus importante qui a été déployée par les États-Unis depuis la guerre d'Irak en 2003. Donc ce sont des forces considérables. Maintenant, encore une fois, avec le président Trump, il peut, s'il obtient un accord, dire c'est grâce justement à cette mobilisation des forces militaires qu'il a pu obtenir un accord qu'aucun autre président n'aurait pu obtenir. Il est possible qu'il dise ça, mais comme vous le dites, il est difficile d'envisager une telle mobilisation avec un tel coût sans qu'il y ait une frappe, encore une fois, d'une envergure incertaine. C'est pour ça que lorsque je parle à ceux qui semblent être au courant plus ou moins de ce qui se trame à la Maison-Blanche, l'heure aujourd'hui est plutôt, à mon avis, au pessimisme. Et il faut le dire que les voix démocrates ici, et même les voix internationales qui s'opposeraient à une guerre, donc, je le répète, injustifiée et illégale, eh bien, elles ne se font pas trop entendre. Et ça, c'est tout de même assez étonnant. Je pense qu'un précédent qui serait créé, où les États-Unis décident, encore une fois, unilatéralement, sans justification d'un danger, d'un péril immédiat ou même à moyen terme, sans évidemment, sans l'aval des Nations Unies, sans l'aval ici du Congrès américain, ben c'est un précédent dangereux et je pense que certains pays alliés des États-Unis, européens en particulier, ne cèdent pas beaucoup en ne protestant pas et en ne faisant pas porter leur voix comme l'avait fait la France en 2003, par exemple, contre la guerre en Irak.
On le disait, Robert Mallet, difficile donc effectivement de prévoir ce que pense Donald Trump et ce qu'il va faire, mais comment est-ce qu'on peut analyser son discours sur l'état de l'Union prononcé hier ? On aurait presque pu s'attendre finalement à ce qu'il soit plus virulent vis-à-vis de l'Iran. Il a tout de même dit qu'il préférait, lui, une solution diplomatique. Bon, il a aussi accusé Téhéran de vouloir construire des missiles qui pourraient bientôt atteindre les États-Unis. L'Iran dénonce des gros mensonges. Est-ce qu'on peut effectivement croire à cette théorie ? Comment vous percevez-vous cette phrase ?
Je pense que c'était un discours qui voulait laisser des options ouvertes, enfin laisser un peu justement ce côté imprévisible. Il n'a pas réellement montré ses cartes. Ce n'était pas un discours qui annonçait la guerre. Ce n'était pas non plus un discours qui montrait une quelconque modération. Tout autant, il a parlé d'un accord strictement nucléaire. Il a dit qu'il faut que l'accord fasse en sorte que l'Iran ne puisse pas obtenir de bombes atomiques. Il veut que l'Iran déclare clairement et que cet accord reflète cette décision. Et puis il rajoute les missiles, et puis il rajoute les droits de l'homme. Donc il s'est gardé une marge de manœuvre pour qu'il puisse prendre une décision qu'il n'a sans doute pas prise lui-même. C'est-à-dire, je ne suis pas convaincu qu'il sache lui-même ce qu'il va faire. Il a plusieurs instincts. D'un côté, il n'aime pas trop les guerres qui peuvent se prolonger, qui peuvent coûter les vies américaines. Il n'aime pas ça, il n'a jamais voulu le faire. Mais d'un autre côté, il aime les coups d'éclat, il aime les coups spectaculaires, et je suis persuadé que certains de ses conseillers et certainement le premier ministre israélien lui disent « Le régime iranien n'a jamais été plus faible qu'aujourd'hui, vous pouvez être le président qui mettait un terme ». Et ça doit le tenter. Après avoir bouleversé ou changé le régime, ou plus ou moins le président du Venezuela, s'il pouvait rajouter à ses trophées un changement du régime en Iran demain, et puis peut-être Cuba le mois d'après, pour un président qui se voit un peu comme un personnage historique, ça doit le tenter. Mais, comme je le dis, d'un autre côté, certains de ses conseillers certainement craignent une guerre prolongée avec des représailles iraniennes qui feraient que les États-Unis seraient dans un engrenage qu'ils ne pourraient pas contrôler.
Est-ce que les négociations justement qui s'annoncent à Genève aujourd'hui pourraient lui donner une réponse à Donald Trump ?
C'est possible. Moi, j'imagine que les États-Unis savent déjà plus ou moins quelle est la réponse iranienne. Je ne sais pas si tout va se jouer à Genève, mais en tout cas, c'est une de ces rencontres peu décisives dans un sens. Mais la décision, à mon sens, dépend moins de ce que les Iraniens vont proposer et plus de ses intentions du président Trump, qui reste un mystère.
Quoi qu'il en soit, pour terminer, Robert Mallet, vous le disiez, peut-être que les États-Unis pourraient obtenir un accord supérieur à celui qui a été conclu en 2015. De toute façon, Donald Trump, il n'a pas vraiment le choix, non ? Il est dans une sorte d'impasse.
Oui et non. Oui, dans un sens, comme vous le dites. Mais d'un autre côté, c'est un président qui crée sa propre réalité. Donc moi, les gens qui me disent qu'il est coincé, il a le dos au mur, soit il doit faire la guerre, soit il doit obtenir la reddition iranienne, Oui et non, parce que c'est un président qui peut s'estimer dos au mur et puis il ne l'est plus parce qu'il crée une réalité, il crée son propre triomphe. Combien de succès a-t-il annoncé qui, objectivement, n'en était pas ? Donc, quelle que soit l'issue de son bras de fer avec l'Iran, il déclarera que c'est un triomphe historique.
Merci beaucoup Robert Mallet d'avoir été avec nous sur RFI.
Merci à vous.
Robert Mallet, grand invité international de RFI Matin, entretien signé Clotilde Dumais et ses négociations Iran-États-Unis. On les suit toute la journée sur RFI et RFI.fr.
Appelez-nous, exprimez-vous. Namoury Dossou.
Tous les jours à 8h10 temps universel, la rédaction de RFI répond à vos questions. Vous souhaitez un complément d'information pour mieux comprendre et décrypter l'actualité ? Rejoignez-nous dès maintenant sur notre page Facebook RFI Appel sur l'actualité.